9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. On va revenir ce matin sur le procès de cet homme âgé qui se faisait passer pour un beau jeune homme sur les sites de rencontres afin d'obtenir des relations sexuelles avec des femmes à qui il demandait de se bander les yeux. Il a été condamné hier à 8 ans de prison pour viol. Un verdict qui a étonné plus d'un juriste. Danny Cohen, professeur de droit, va nous dire pourquoi. Je recevrai ensuite la comédienne Catherine Iagel qui fait rire le public du Petit Saint-Martin avec les règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarde. Mais d'abord, le Covid. On assiste à un rebond des contaminations en France depuis peu. Pascal Crépet est épidémiologiste. Il va nous dire ce qu'il en est exactement.
Europe 1.
Bonjour Pascal Crépet.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. On parle d'une reprise de l'épidémie de Covid. Vous la constatez vous aussi ?
Oui, oui, comme tout le monde, en regardant simplement les chiffres de Santé publique France, où on constate une augmentation à la fois du nombre de tests positifs, mais surtout, ce qui est un marqueur encore plus inquiétant, c'est l'augmentation du nombre d'hospitalisations, de nouvelles hospitalisations par jour, qui reste une augmentation douce, entre guillemets. On n'est pas dans une explosion épidémique, mais malheureusement, on sait aussi que les vacances scolaires contribuent à aplatir les courbes, et donc on peut craindre qu'avec l'avancée de la saison hivernale et la fin des vacances scolaires, les choses changent.
Alors comment l'explique-t-on cette hausse des contaminations alors que les trois quarts de la population française ont reçu au moins une dose et les deux tiers sont complètement vaccinés ?
Il y a deux éléments qui expliquent ça et on comprend au final assez facilement. Le premier élément, c'est que on est face au variant Delta. Le variant Delta, contrairement au variant Alpha ou au variant encore précédent, qui était le variant d'origine, en fait se transmet beaucoup plus facilement, de 2 à 3 fois plus facilement que le variant d'origine. Ce qui fait que, parce qu'il se transmet très facilement, il faut que la population soit très immunisé et bien au-delà des 60-70% dont on parlait au tout début de l'épidémie face aux variants d'origine. Là, on a besoin, pour éviter une remontée épidémique et casser vraiment la dynamique de l'épidémie, d'avoir des niveaux d'immunité au-delà de 85%. Et ça, malheureusement, on ne peut pas y arriver même avec le vaccin et même en vaccinant 100% de la population. Parce que le vaccin n'est pas efficace à 100% et notamment contre la transmission de ce variant Delta, le vaccin n'est efficace qu'autour de 50%. Donc on sait que le vaccin ne suffit pas à contrôler l'épidémie, ne suffit pas seul à contrôler l'épidémie. Et puis il y a le deuxième élément qui est la saison. On sait qu'il y a un impact de la saison sur les transmissions, que le virus se transmet moins facilement durant l'été et plus facilement durant l'hiver. Et on arrive donc dans cette période hivernale qui favorise les transmissions, qui avait d'ailleurs provoqué cette deuxième vague en 2020 à partir d'octobre-novembre. Et donc on est dans ces situations-là où on fait face à ce variant Delta compliqué à gérer et cette saison hivernale qui favorise les transmissions.
Pascal Crépet, vous avez l'air de dire que c'est pas la peine de vacciner tout le monde, même les jeunes enfants, comme le disent certains.
Alors, je ne sais pas si c'est pas la peine. Disons que plus on vaccine, plus l'épidémie sera facilement contrôlée par d'autres méthodes complémentaires. Et peut-être pas forcément des mesures, juste une application très précautionneuse, des gestes barrières, une vigilance de tout un chacun vis-à-vis des moments où l'on risque de s'exposer aux contaminations. Tout cela sera plus simple si une très très large proportion de la population est vaccinée, ce qui est d'ailleurs le cas en grande partie. On a des niveaux de vaccination qui sont parmi les plus hauts d'Europe, et on est d'ailleurs bien mieux vaccinés que nos voisins anglais, par exemple, qui eux ont fait d'autres choix et sont dans une situation plus compliquée aujourd'hui. En revanche, là, oui, alors est-ce qu'il suffit de vacciner pour contrôler l'épidémie? La réponse est non.
Et certains reprochent aussi aux vaccinés d'avoir repris une vie normale. Au fond, même si on est vacciné, on ne peut pas reprendre une vie normale.
Ben, alors, vous ferez peut-être redéfinir ce qu'est une vie normale. Je pense que si une vie normale, c'est une vie telle qu'on avait exactement jusqu'en 2019, jusqu'à l'hiver 2019, je pense que c'est de toute façon pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une bien plus conscience du risque infectieux. On sait que bah, si on a des symptômes, qu'on est malade, bah, on va juste pas faire le fier et aller au travail. On va plutôt rester chez soi pour éviter de contaminer ses collègues. Et pareil pour tout un tas d'éléments. Donc, on est maintenant dans une situation où on a intégré, je pense, très largement ce risque infectieux. Alors certes, il y a des relâchements, mais néanmoins, globalement, on a une meilleure conscience de ce à quoi on s'expose et de ce à quoi on peut exposer les autres. Donc je pense qu'il y a certains gestes, certaines précautions qui sont maintenant un peu inscrites dans nos comportements. Se laver les mains, éternuer dans son coude, porter un masque, voilà, des pratiques qui deviennent des pratiques du quotidien, et j'espère que ce sont des pratiques qui resteront et qui s'inscriront justement dans notre vie normale future, parce qu'elles ont un impact sur tout type d'infection, que ce soit la grippe, la gastro-entérite et autres. Donc les bénéfices sont assez larges. Mais effectivement, il faut qu'on garde cette vigilance, parce que malheureusement, la crise Covid-19 n'est pas encore totalement derrière nous, même si certainement le plus gros est passé. Il y a encore cette période hivernale qu'il va falloir traverser.
Pascal Crépet, vous l'avez dit, on ne peut pas tout miser sur la vaccination, mais on ne peut pas tout miser non plus sur les gestes barrières. On fait une pause et on se retrouve juste après. J'ai encore des questions à vous poser.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On assiste à un retour des contaminations. Nous sommes avec Pascal Crépet, qui est chercheur à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Pascal, on a tendance aujourd'hui à tout mettre sur le dos des individus. Il faut se vacciner et puis il faut respecter les gestes barrières. Mais vous l'avez dit, ça ne suffit pas. Il faut par exemple isoler et tracer. Est-ce qu'on le fait en France ?
Alors oui, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les mesures dépendent au final, à la fois des autorités, des moyens qui sont mis en place, bien évidemment, mais aussi de la population et des individus. C'est-à-dire que on ne contraint pas en France les gens à s'isoler. Et je pense que si on le faisait, beaucoup de gens seraient vent debout, donc on se repose sur le bon vouloir des personnes à s'isoler aussi, et en très grande majorité elles le font quand elles ont les moyens de le faire, et quand elles ont la possibilité logistique de le faire. Alors certes, je pense que les autorités pourraient toujours faire mieux pour faciliter les choses, mais dans tous les cas, c'est un partenariat d'une certaine manière entre la population et les autorités de santé pour lutter contre cette épidémie.
Et est-ce qu'on ventile assez les locaux fermés, qui sont ceux où l'on se contamine, les locaux fermés, bondés, dans lesquels on passe plusieurs heures en enlevant son masque ou en le portant sous le nez? Est-ce qu'on les ventile assez?
Bah, certainement pas assez, parce que c'est justement un des facteurs saisonniers, entre guillemets, qui favorise les contaminations. L'hiver arrivant, avec le mauvais temps et la baisse des températures, ben on ouvre moins facilement les fenêtres et puis on reste plus facilement en intérieur. Et donc tout ça nous met dans des conditions qui favorisent les contaminations et donc on s'expose plus aux infections avec ce virus. Et donc effectivement, on n'aère pas assez. Alors on parle beaucoup des capteurs de CO2, etc. Faut bien comprendre, c'est pas le capteur de CO2 qui protège du virus. Ce qui protège du virus, c'est l'aération. Donc, on n'a pas forcément besoin, à mon sens, d'avoir un capteur de CO2 pour se dire que quand il y a du monde dans une salle, bah, il faut ouvrir la fenêtre, quitte à garder un pull, voire un manteau. Mais au-delà de ça, voilà, effectivement, il faut, si l'on veut réduire le risque de contamination, notamment par aérosol, il faut aérer les pièces.
La transmission du virus par les aérosols n'a-t-elle pas été sous-estimée au départ, on insistait sur la transmission directe d'une personne à une autre par les gouttelettes ou par les surfaces infectées, d'où la distance de 2 mètres entre les gens et le recours au gel hydroalcoolique. Alors que ce sont les aérosols, les micro-gouttelettes qui sont les plus dangereuses, ce sont elles qui sont responsables de la très grande majorité des contaminations.
Vous avez tout à fait raison, et c'est peut-être la première erreur que nous épidémiologistes avons fait dans. Alors on a fait d'autres, hein, bien sûr, mais la première erreur que l'on a fait, une erreur qu'on peut tout à fait expliquer, on peut justifier, c'est-à-dire que on se disait tout simplement que si ce virus se transmet par aérosol, à ce moment-là, son nombre de reproductions, son R0, devrait être très élevé. Il devrait être de l'ordre de celui de la rougeole ou de la coqueluche, donc autour de 10. Or, ce que l'on observait, c'est qu'il était plutôt, au début de l'épidémie, autour de 3. Et donc, ce n'était pas vraiment compatible avec cette transmission par aérosol. Il y a un élément qu'on avait pas pris en compte, c'est qu'en fait, oui, il se transmettait par aérosol, mais il fallait qu'il y ait une accumulation assez importante d'aérosols, de particules virales dans l'air, pour qu'il y ait infection, pour qu'il y ait contamination. Et donc c'est pour ça en fait qu'on s'est trompé sur cet élément. Et c'est aussi pour ça que lorsque les différents variants, que ce soit le variant alpha puis le variant delta, sont apparus, en fait leur capacité nouvelle, c'était de s'attacher plus facilement au virus et donc d'avoir besoin au final de moins de particules virales pour infecter une personne. Ce qui fait que parce qu'il y a besoin de moins de particules virales, eh bien ces contaminations par aérosol sont d'autant plus efficaces parce que on a besoin de moins accumuler d'aérosols dans les pièces confinées pour infecter une personne et c'est pour ça que le nombre de contaminations est aussi beaucoup plus élevé, que le nombre de reproductions de ces variants a augmenté.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas dire aux gens dans ce cas-là que les masques en tissu, par exemple, ne sont guère efficaces contre les aérosols ?
Alors certes, ils ne sont pas efficaces contre les aérosols, mais ils sont quand même efficaces par les postillons. C'est-à-dire que c'est pas tout ou rien. Il y a quand même un gradient d'éléments contaminants. Vous pouvez contaminer une personne en lui postillonnant dessus, et donc le masque en tissu ou le masque même chirurgical, éviter ça, éviter une partie. Donc vous allez, et toutes les mesures d'ailleurs qui sont prises dans cette épidémie ne sont pas des mesures qui sont 100% efficaces, ce sont des mesures qui vont contribuer à réduire le risque, et c'est au final la juxtaposition de ces différentes mesures qui nous permet de globalement réduire le risque et garder l'épidémie sous contrôle. Donc on n'est pas forcément dans une recherche d'atteindre le risque zéro qui n'existerait pas de toute façon. On est dans un objectif avec cette accumulation de différentes mesures, de différentes précautions, de le réduire suffisamment pour que au final, le nombre de reproductions de l'épidémie passe juste en dessous de ce seuil de 1 pour que l'épidémie naturellement décroisse et éventuellement disparaisse.
Merci Pascal Crépet d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. On fait une pause et on se retrouve juste après avec Danny Cohen.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Le procès a eu lieu cette semaine, celui d'un homme qui séduisait des femmes sur des sites de rencontres en se faisant passer pour un beau jeune homme de 37 ans et finissait par les inviter chez lui pour une nuit magique à la 50 nuances degrés. Le lieu était plongé dans l'obscurité, il leur disait de se déshabiller, de nouer un bandeau sur leurs yeux. Elles avaient interdiction de le toucher, elles avaient accepté d'être attachées. C'est seulement une fois délivrées, le rapport consommé, qu'elles pouvaient retirer le bandeau et découvrir qu'il s'agissait non pas d'un Apollon, mais d'un vieil homme à la peau ridée, au ventre bedonnant, avec un crâne chauve et des lunettes. Sur les 24 femmes qui sont venues chez lui, 17 ont été auditionnées, 3 se sont constituées partie civile. Le procureur réclamait 12 ans de prison. L'homme âgé aujourd'hui de 74 ans a été condamné à 8 ans. Danny Cohen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités à l'école de droit de Sciences Po et vous faites partie des juristes qui ont écrit depuis 2 ans sur cette affaire dans les revues spécialisées. Le verdict vous surprend, sachant que la chambre d'instruction, au départ, avait jugé qu'il ne fallait même pas poursuivre.
Alors je dirais qu'il me surprend, qu'il ne me surprend pas. Sur le plan, je dirais, de l'orthodoxie juridique, il est quand même assez étrange. Mais effectivement, la Cour de cassation elle-même, après bien des débats intérieurs, avait pris une position que j'avais trouvée assez étrange et je ne suis pas le seul.
L'accusé a reconnu tous les faits. Il a répété à l'audience qu'il n'avait pas conscience de faire quoi que ce soit d'illégal. Les femmes avaient accepté les règles. Elles étaient donc, à ses yeux, consentantes.
Oui. Alors, je voudrais peut-être dire une petite chose en préalable pour les auditeurs. C'est qu'il ne faut pas se méprendre. C'est-à-dire que je considère, comme tout le monde, j'imagine, que les gens qui commettent des viols ou des agressions sexuelles doivent être poursuivis et punis. Donc la question qui se posait ici est une autre question. C'est est-ce que les manœuvres qui étaient utilisées par cet homme sur Internet entraînaient un viol, lequel, dans son cas, était quand même passible de 20 ans de réclusion criminelle. Et sur cette question, c'est quand même problématique parce que le viol, ça suppose que vous n'êtes pas consentant. Et ces femmes y étaient allées volontairement. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et j'imagine qu'elles se demandent est-ce que j'irai chez un homme que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, les yeux bandés et me faire attacher. Pour moi, la question contient la réponse. Il y a une imprudence absolument terrible. On peut le comprendre si on connaît quelqu'un, mais là, c'était quelque chose de très particulier. Et au fond, elles découvrent qu'elles ont été trompées. Donc, ce monsieur les a trompées. Est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont pas donné leur consentement? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça.
Qu'est-ce qui a déterminé le consentement? Au fond, c'est ça aussi que pose ce verdict. Où commence le viol?
Voilà, exactement. Et au fond, ce que dit la Cour de cassation et ce qu'elle dit la Cour d'assises de l'Hérault pour le condamner, c'est qu'elles ont donné leur consentement à quelqu'un d'autre. Donc au fond, il y aurait une erreur sur l'identité de la personne. Qu'elle se soit fait tromper, elles ont été victimes d'une tromperie, on ne va pas dire le contraire. Mais si vous voulez, pardon de le dire comme ça, mais au toucher par exemple, vous vous rendez compte de l'âge de la personne. Et donc si vous acceptez de vous faire attacher les mains, vous allez avoir du mal. Et cette idée, si vous voulez, que l'identité c'est quelque chose de physique, pour les juristes, ça ouvre une boîte de Pandore. C'est-à-dire que, imaginez que je me montre, même je me montre en webcam, hein, tel que je suis moi aujourd'hui, et par exemple, je cache que j'ai un pied amputé. Est-ce qu'il y a une erreur sur l'identité? Est-ce qu'on va dire, ah oui, mais on pensait que vous étiez un homme entier, qu'il ne vous manquait pas 3 doigts ou qu'il ne vous manquait pas un pied, et donc si vous êtes handicapé, ce n'est plus la même personne. Et ça, personnellement, pour le regard jeté sur certaines catégories de personnes, ça me dérange. Et donc, l'idée, c'est elles ont consenti, ben, elles ont consenti dans des conditions, effectivement, qui sont particulières, mais je ne pense pas qu'il y ait une erreur sur l'identité de la personne.
Parce qu'on pourrait l'étendre, effectivement, au recours à une perruque, par exemple, quelqu'un qui obtiendrait un rapport sexuel et puis tout à coup, l'autre se rendrait compte qu'il ou elle a une perruque et qui considérerait qu'elle a été trompée, donc qu'il s'agit d'un viol. On pourrait l'étendre à la chirurgie esthétique, aux implants mammaires, par exemple.
Ou alors je mets une photo, les auditeurs ne me voient pas, mais j'ai quand même la 60aine, je mets une photo de moi il y a 25 ans.
Oui, mais
est-ce que c'est une erreur sur l'identité? C'était moi. Et les lentilles de couleur, les lentilles de contact de couleur. Donc vous voyez, si on commence à mettre le pied là-dedans, on va jusqu'où? Il y a eu un film il y a 2 ans avec Juliette Binoche qui s'appelle « Celle que vous croyez » et Juliette Binoche se faisait passer pour quelqu'un qui avait 25 ans alors qu'elle en avait 50. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, sur l'Internet, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas tenir pour argent comptant ce qui est dit.
Mais après, encore faut-il plonger la pièce dans l'obscurité, que l'autre accepte de se bander les yeux, d'avoir les mains attachées. Le cas équivalent, ce serait pour un homme, cette fois, si l'on croit être avec une femme, on accepte d'avoir les yeux bandés et les mains attachées, et on constate ensuite que l'on est avec une transfemme. Une femme, selon l'état civil, mais qui a gardé ses organes sexuels masculins. Est-ce qu'on peut porter plainte pour viol?
Si on suit cette jurisprudence, on pourrait le faire. Et d'autant plus qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, depuis 2018, la définition du viol a été énormément élargie, en ce sens que, pardon de le dire comme ça, mais il y a quelques années, le viol supposait une pénétration. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un viol sans pénétration.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
On revient donc avec Danny Cohen sur le procès de cet homme âgé qui séduisait des femmes sur des sites de rencontres en se faisant passer pour un beau jeune homme de 37 ans. Il a été condamné hier à 8 ans de prison. Le procureur avait demandé 12 ans. Danny Cohen, vous le disiez tout à l'heure, les auteurs d'infractions sexuelles doivent être livrés à la justice et punis comme il se doit. Mais toute condamnation ne doit pas par principe être approuvée les yeux fermés et la discuter ne vous fait pas autocritique. Automatiquement choir du côté des porcs. Hein. C'est oui. Vous l'avez écrit, hein, cela. Que l'on comprenne bien. Là, effectivement, comme vous le disiez aussi, ce jugement ouvre une boîte de Pandore. Vous l'avez rappelé, le viol, c'est une pénétration sexuelle non consentie, avec violence, avec menace, avec contrainte, ou par surprise. La Cour de cassation a choisi justement le viol par surprise pour qualifier les faits dont cet homme était accusé. Alors le viol par surprise, c'était quoi? Et qu'est-ce que c'est devenu depuis?
À l'origine, si vous voulez, l'exemple, c'est un célèbre arrêt de 1857. Il y a eu des décennies sans décision. Pourquoi? Dans cet arrêt, on est à la campagne, on n'a pas l'électricité. Vous avez une femme qui est endormie dans son lit et se glisse dans son lit un homme qu'elle pense être son mari. Hein, on est à la campagne, les portes ne sont pas fermées à clé, il n'y a pas d'électricité et au toucher, elle se rend compte que c'est pas son mari. Et donc là, effectivement, il y a un viol parce que c'est un homme qui n'est pas son mari, qu'elle croyait, elle s'est laissée faire parce qu'elle croyait que c'était son mari. Aujourd'hui, la Cour de cassation est en train de faire dériver ce mot « surprise » qui a plusieurs sens dans notre langue en « mauvaise surprise ». Mais des mauvaises surprises, malheureusement, c'est tellement fréquent dans les relations entre hommes et femmes que là, il me semble qu'il y a un élargissement considérable. Et surtout, ce qui me gêne, c'est que ça me paraît être le contraire du féminisme. Si on y réfléchit une seconde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, quand une femme a donné son accord, même si on pense qu'elle n'aurait jamais dû le donner, mais enfin elle l'a donné, et qu'elle le regrette après, au fond, pour dire si cet accord est valable, ce n'est plus elle qui aura le pouvoir de dire si c'est valable, ce sera le juge. On saura si l'accord qu'elle a donné était un accord valable une fois que le juge en aura décidé ainsi. Or, ce système, nous le connaissons en droit. C'est le système des tutelles. C'est-à-dire que quand vous avez ce qu'on appelle des incapables majeurs, des gens qui sont un peu déficients, eh bien, il faut un juge des tutelles pour surveiller les actes et les valider. Eh bien, moi, ça me dérange qu'on traite les femmes de cette manière et qu'on dise qu'il faut attendre que le juge passe pour savoir si l'accord était valable. Et je ne peux pas m'empêcher de rapprocher ça des difficultés croissantes que dans certains pays, comme l'Italie, les États-Unis, les femmes éprouvent pour avorter. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'avortement a à voir avec ce dont nous sommes en train de parler? Une chose simple, c'est la question de la maîtrise de la femme sur son propre corps. Et au fond, ce système conduit à déplacer le pouvoir de décision vers quelqu'un qui n'est pas la femme elle-même.
Mais au fond, ce que vous dites, et vous n'êtes pas le seul, hein, d'autres l'ont dit, notamment les avocats.
Et des femmes,
c'est que ces femmes ont accepté de mettre un bandeau sur les yeux. Elles ont pris un risque. Elles ont joué, elles ont perdu, du moins celles-ci, celles qui se sont portées partie civile, estiment avoir perdu, parce que d'autres pas, l'une même, paraît-il, aurait vécu avec, avec cet homme pendant quelques temps, après cette expérience, qu'elle n'a donc pas trouvée douloureuse. Au fond, la notion de surprise, dites-vous, ne peut pas être reprochée à l'homme et ne saurait dépendre d'une quelconque subjectivité, à savoir si c'était une bonne ou une mauvaise surprise.
Exactement. Et je pense que là, si vous voulez, on crée quelque chose de très très flou, et le droit pénal ne doit pas être flou. C'est très important, ça fait partie justement des principes de la démocratie quand on enseigne le droit pénal, et si ça dépend de la subjectivité, c'est un problème. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que cet homme n'est pas blâmable, à l'évidence il l'est. Il s'agit juste de dire si on est dans une qualification qui doit faire encourir 20 ans de réclusion criminelle.
Certains juristes s'inquiètent qu'une telle qualification, viol par surprise, utilisée par la Cour de cassation dans le sens où il y a eu stratagème, il a inventé un stratagème, assez malin d'ailleurs, pour parvenir à ses fins, que cette qualification donc ouvre la porte à toutes les déceptions qui peuvent suivre un rapport sexuel. L'on est déçu par la personne avec qui l'on vient de faire l'amour. À chaque fois, est-ce qu'on va risquer de porter plainte pour viol ?
Le problème, c'est ça. C'est le problème du consentement regretté et de l'utilisation du droit pénal dans ce type de situation. En France, on a tendance à vouloir beaucoup, beaucoup utiliser le droit pénal pour tout. Dès qu'il y a une faute, on veut que ça soit pénal. Moi, je me suis demandé ce qui se serait passé si cet homme avait été jugé par des Français, c'est-à-dire par un juré populaire.
C'est lui qui a choisi
l'être
par un jury professionnel.
Écoutez, à son tour, il a fait un mauvais choix.
Oui, on peut le dire, puisque 8 ans de prison, il en a 74 aujourd'hui. Vous parliez du sexe faible, mais encore une fois, on pourrait, je le disais tout à l'heure, ça pourrait arriver à tout le monde, pas seulement aux femmes. On peut étendre cette idée à beaucoup de cas. Hein.
Absolument. Alors d'abord, attention, quand je parle du sexe faible, je mets des guillemets parce que c'est une notion que je récuse. Moi, je considère qu'une femme est l'égale d'un homme et j'ai un problème avec l'idée de sexe faible. Mais on voit bien que dans ce que dit la Cour de cassation, il y a cette idée qu'au fond, la femme, elle est plus faible, elle est gouvernée par ses émotions, enfin, tout ce qu'on disait avant. Mais aujourd'hui, on peut être violeur sans pénétration, donc on peut dire aujourd'hui qu'une femme peut être coupable d'un viol si elle ne correspond pas à ce que l'homme attend.
Ce verdict, vous pensez que c'est un verdict typiquement post-MeToo ? Ça aurait été très différent avant ?
Alors écoutez, c'est très difficile de répondre à votre question, je vais essayer de le faire vite. Je pense que ce verdict, en fait, c'est du faux féminisme. Ça n'est pas du féminisme. Ça peut être quelque chose à voir avec MeToo, mais je pense surtout que la justice essaye de rattraper toutes les années où elle a été indifférente à un certain nombre d'agressions sexuelles.
Merci Danny Cohen. On se retrouve dans un instant avec une grande comédienne, c'est Catherine Iégel.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Catherine Iégel.
Bonjour.
Vous interprétez, seule sur la scène du théâtre du Petit Saint-Martin, Les règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce, mise en scène de Martial Di Fonzobo. Et c'est plein tous les jours. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce texte ?
Moi, ça me fait rire.
Oui, moi aussi, ça m'a fait rire.
Ça m'a fait rire. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais vu représenté. Et je ne crois pas qu'il soit interprété très souvent. Je peux le comprendre maintenant, parce qu'être seul en scène, c'est une difficulté que je ne connaissais pas.
C'est votre premier seul en scène.
Oui, je sais pas. Je comprends que peu d'actrices ou d'acteurs se précipitent, parce que c'est un challenge très différent. Voilà, je me sens très seul.
Avec des grandes tables à roulettes.
Oui.
C'est la mise en scène très dépouillée de Martial Di Fonzobo. Ça fonctionne très bien d'ailleurs. Alors il faut comprendre que cette pièce de Jean-Luc Lagarce s'est inspirée d'un véritable manuel, celui de la Baronne Staff, intitulé « Usage du monde, les règles du savoir-vivre dans la société moderne ». C'était un best-seller à la fin du 19e siècle.
C'est toujours édité.
C'est toujours édité. Vous avez lu l'original ? Vous avez
non,
vu
j'ai
la
pas
différence.
Lu l'original, je l'ai retrouvé tout simplement en poche.
Oui.
C'est toujours édité.
Ah oui.
Et effectivement, je me suis amusé à passer au Stabilo tous les endroits que Jean-Luc Lagarce a pris, et il a été très très fidèle. Sauf qu'il rajoute derrière un commentaire, genre n'importe qui, n'importe quoi. Il rajoute des phrases comme ça, je sais pas, les survivants. Il rajoute, il s'amuse, mais il s'en est énormément inspiré.
Le savoir-vivre, c'est l'idée qu'il existe en toutes circonstances une solution, une façon de se comporter, quel que soit le problème. Et si l'on respecte les règles, on n'est jamais pris de court, on n'est jamais dépassé, ni par le bonheur, ni par le chagrin, puisque tout est prévu, tout est codifié. Ça peut paraître assez génial. En vous écoutant hier soir, Catherine Hagel, je me suis dit, mais au fond, je comprends qu'il y ait peut-être des gens qui en soient nostalgiques.
Ah oui, il y a même, à mon avis, des gens qui vivent beaucoup, alors plus avec Nadine de Rothschild maintenant.
Oui, plus récemment.
Mais c'est un peu la même chose. Je pense, moi personnellement, la nostalgie de ça m'effraie, si vous voulez mon avis. Mais il y a en plus, je trouve en ce moment, un certain mouvement, disons, de retour en arrière qui m'effraie aussi. C'est pourquoi je trouve ce texte salutaire, parce qu'il vient secouer cette espèce de règle bourgeoise et effrayante, quoi.
Vous ne pensez pas que la vie était plus facile, moins pénible quand on en connaissait les règles, qu'au fond le savoir-vivre permettait de mieux vivre?
Non, je crois tout l'inverse. Absolument tout l'inverse. Je crois absolument pas. Je pense que c'était des carcans dans lesquels on emprisonnait les gens. C'était une façon aussi de les maîtriser. Excusez-moi, c'est presque politique. On est très loin de la libération des mœurs.
Oui, c'est rester à sa place, hein, le savoir-vivre.
Ah, exactement.
En toutes circonstances, en fonction de son sexe et de sa position sociale.
Et oui, et son sexe, excusez-moi, on entend résonner très fort le patriarcat. Et on n'entend pas du tout résonner l'égalité homme-femme. Non, c'est. Enfin, moi, c'est pas. Je n'ai aucune nostalgie de cette époque. Et si elle revenait, ce que je peux craindre, et ce que j'entends sonner autour de moi. Si elle revenait, je sais pas, je quitterais ce pays.
Il y avait la certitude, on est à la fin du 19e siècle, hein, dans une société, au fond, qui est persuadée qu'elle vivra toujours, dans un monde parfait, en fait.
Non, je pense qu'elle est effrayée, je pense tout l'inverse de
déjà
vous.
Déjà
elle est effrayée, c'est pourquoi il y a des règles. Dès qu'on institue des règles, c'est par peur. C'est par peur de perdre ce qu'on a. Enfin, moi, je pense plus à l'effroi qu'à la grâce et qu'à la légèreté.
Catherine Hagel, vous avez passé 40 ans à la Comédie-Française. Vous avez été pensionnaire, sociétaire, doyenne, puis sociétaire honoraire. Vous pourriez écrire les règles du savoir-vivre à la Comédie-Française, j'imagine. Il doit y en avoir.
Il y a des statuts,
ouais,
qui datent de Napoléon. Mais il y a eu beaucoup de codicilles, enfin. Mais c'est bien, parce que comment gérer une troupe, sinon? Comment faire qu'une troupe reste permanente? Oui, il y a des règles, il y a des statuts. Il y a des choses qui sont belles, des choses qui sont émouvantes. Des choses qui sont surannées, mais c'est pas grave.
Il y a un savoir-vivre, vous pensez, à la société française, à la Comédie française, parce que c'est une micro-société.
Je pense que je n'ai pas connu l'époque que me racontaient, par exemple, des acteurs comme Jean-Paul Roussillon ou Michel Aumont, qui étaient plus anciens que moi dans la maison. L'époque où les pensionnaires n'avaient pas le droit de prendre la même porte d'entrée.
Ou l'ascenseur aussi.
Ou l'ascenseur, les pensionnaires n'avaient pas le droit de s'asseoir dans le même foyer. Les femmes devaient venir en chapeau. Répéter, parce qu'une femme sans chapeau, c'était une prostituée. Je pense, moi je suis arrivé après 68, donc j'ai échappé au pire.
Ce qui est très très drôle dans cette pièce, c'est que au fond vous expliquez pourquoi les règles sont les règles très souvent. Par exemple, pourquoi les fiançailles doivent se passer en famille. On n'invite pas les connaissances pour ne pas exposer le bonheur ingénu de la jeune fille aux commentaires des indifférents et des cyniques. Au fond, ça paraît frapper au coin du bon sens.
Oui, enfin je ne crois pas que ce soit vraiment du bon sens. Je pense que les fiançailles, en tout cas telles qu'elles sont narrées dans ces règles, c'est un contrat. C'est un contrat financier, c'est un contrat important. On ne peut plus rompre des fiançailles.
Donc on ne doit pas rigoler non plus.
Non. Non. Et on ne choisit jamais un fiancé au hasard. Le fiancé lui-même ne choisit pas la fiancée au hasard. Il faut des intermédiaires qui se renseignent sur la généalogie, l'hérédité, la fortune. Tout est une question d'argent et de bienséance. C'est absolument répugnant. Mes yeux. Hein.
Oui. En cas de mariage, on garde au doigt l'anneau de son premier mariage.
Oui.
En signe de respect pour les enfants nés du premier lit.
Oui.
Là, c'est assez joli.
Oui, sauf que ça finit par... on peut garder... Donc, elle porte donc deux alliances, elle s'est mariée deux fois, et ainsi de suite, autant d'anneaux que... Bon, c'est-à-dire qu'on peut se marier deux fois, trois fois, quatre fois. C'est-à-dire qu'il faut avoir des longs doigts au bout d'un moment.
Le deuil, par exemple, est très précisément réglementé. Sa durée, la façon de s'habiller, de se comporter
pour
à chaque
femmes,
étape.
Pour les femmes,
vous avez raison.
Car ce n'est décrit que pour les femmes.
Ouais. Et comment on y met fin aussi? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On n'arrive pas à faire son deuil la plupart du temps.
Au fond,
on est souvent désemparé.
Excusez-moi, mais j'ai vraiment la sensation, en tout cas, quand il y a sentiment, quand il y a affection, je pense qu'on n'arrive jamais de tout temps, à toute époque, de faire son deuil, comme vous dites. Les sentiments, c'est une chose éternelle. Là, ce sont des règles pour la bienséance, mais c'est absolument pas une façon de se libérer de la douleur.
Sur scène, Catherine Yagel, vous êtes censée lire un livre au spectateur, mais il n'y a rien d'écrit dans le livre.
Si.
Vous le connaissez par cœur ou vous le lisez? Je me suis posé la question, je me suis dit, elle doit le connaître par cœur.
Nous, on a décidé avec Martial Difonzobo que ça garde un caractère de conférence, complètement, car c'est une conférence. C'est une adresse totale au public. Donc si tout était par cœur, ça serait un sketch. C'est autre chose.
Ah, alors j'avais cette impression que vous faisiez semblant de le lire.
Non, j'avais pas semblant de lire. Et si je perdais les feuilles, je serais dans un embarras. Il y a des tas de passages que je sais par cœur et que nous avons décidé. Mais à ce moment-là, je ne lis plus, je m'adresse aux gens. Et des tas d'autres qui sont des règles plus simples que je lis. Parce que ça doit, à notre sens, garder cet aspect de conférencière.
Mais ça garde l'aspect de la conférencière à tel point que j'ai cru que vous faisiez semblant de lire.
Oh là là, vous me rassurez.
Vos répliques préférées en ce moment sont lesquelles? Parce qu'il y en a tellement qui font rire toute la salle.
Moi, j'avoue. J'aime le rendez-vous avec les prénoms des saints.
Là, c'est une véritable virtuosité, puisque vous donnez à la suite les noms des saints oubliés.
Mais
je les lis.
Hein,
vous les prononcez d'une manière extraordinaire, alors que c'est imprononçable.
Oui, mais ça me fait penser à quelqu'un que je ne nommerai pas, et qui a un grand attachement aux prénoms français catholiques.
Mais justement, ces prénoms dont vous faites la liste, lesquels sont-ils? Ils sont tous vrais. Vous pouvez nous en donner quelques exemples? On n'en a jamais entendu parler.
Non, mais je ne sais pas, mais j'avais entendu Courrèges qui avait... décidé, mais ça c'est autre chose, d'appeler sa fille Clafoutis.
Oui.
Elle n'a pas dû se marrer non plus. Mais non, tous ces prénoms de saints et de saintes sont... Bon, il y a Cassantienne, moi je ne les connais pas par cœur, hein, je le dis. Ils ont Théoptinthe, Outry, Vériburge. Enfin, je ne sais pas, c'était des saints. Ils ont fait quelque chose de très bien, sûrement, pour être dans le calendrier des saints. Mais ça, c'est un moment que je trouve particulièrement...
savoureux.
Savoureux, oui.
Les règles du savoir-vivre dans la société moderne, la pièce de Jean-Luc Lagarce, mise en scène de Martial Difonzobo, interprétée par Catherine Yagel. C'est donc au théâtre du Petit Saint-Martin tous les jours.
Sauf le dimanche et le lundi. Et alors, il y a une semaine à 19h et en alternance avec une semaine à 21h et le spectacle dure une heure. J'aime bien le dire parce que ça détend le plexus.
Merci Catherine Yagel.
Merci à vous.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine s'achève. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la suite à 9h. Pierre de Villeneuve, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Les grandes voix d'Europe 1, c'est dans quelques instants. Quel est le programme?
Des scènes de guérilla urbaine sur fond de trafic de drogue à Alençon. What we did was clumsy, que faire des excuses de Joe Biden, et l'épisode Zemmour de la semaine.
Bonne émission.
À tout de suite.